Vous êtes sur RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Vincent Parisot.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h. Ce 5 décembre était un test. Le gouvernement est donc fixé. La mobilisation contre la réforme des retraites a été forte en région, comme à Paris, où le face-à-face entre casseurs et forces de l'ordre place de la République a duré plusieurs heures. Demain, grève reconduite dans les transports, jusqu'à lundi au moins à la RATP. Aujourd'hui, en tout cas, de nombreux salariés avaient pu s'organiser, mais dans la durée, ce sera une autre histoire. Le vrai test sera sans doute lundi.
Si ça dure, ça risque d'être compliqué dans l'organisation personnelle, notamment parce que j'ai des enfants, donc forcément, faut aller les chercher, trouver un mode de garde, prendre des jours de congé, RTT. Si ça dure 3 semaines, ça risque d'être compliqué et fatigant surtout.
Voilà, commentaire recueilli il y a quelques minutes, Garcin Lazare. Édouard Philippe doit annoncer en milieu de semaine prochaine l'architecture générale de la réforme des retraites. Jour de grève, ce sera l'essentiel de votre journal. Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. On va revenir effectivement sur ces cortèges denses aujourd'hui dans de nombreuses villes de France, des centaines de milliers de personnes dans tout le pays, de quoi conforter les syndicats et les grévistes qui poursuivront le mouvement demain. Les transports sont encore très perturbés. Toujours 9 TGV sur 10 à quai et 10 lignes de métro fermées dans la capitale.
Et Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, sera avec nous dans un quart d'heure pour l'interroger. Vous pouvez appeler dès maintenant le 3210.
L'actualité, c'est aussi ce rebondissement dans l'enquête du double homicide de Montauban. Les meurtres sont en fait liés à des loyers impayés. La bourse de Paris stable, ce soir plus 0,03%. Le CAC 40 s'établit à 5801 points. Enfin, les courses à Vincennes, il fallait jouer l'as, le 9, le 7, le 15 et le 6.
Et puis la météo. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Vincent.
Demain, le retour de la pluie au nord.
Oui, d'abord de la Bretagne aux Hauts-de-France le matin avec du vent et la perturbation va progresser légèrement à l'intérieur des terres dans la journée avec des pluies plus éparses. Attention aux pluies verglaçantes le matin sur les Ardennes. Les Ardennes qui est en vigilance orange. Les chaussées seront très glissantes, donc prudence. Et puis ailleurs, pas mal de brouillard, notamment dans le sud-ouest, du brouillard givrant dans le nord-est. Tout ça va se dissiper. On retrouvera du beau soleil au sud et ça va remonter jusqu'en Alsace sous des températures qui sont encore froides au nord-est. De moins 4 à Dijon, à 8 à Brest, l'après-midi entre 6 à Metz et 15 à Marseille.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Les syndicats ont réussi leur pari de la mobilisation. 510 000 personnes ont battu le pavé dans quelques 70 villes en région, selon les autorités, contre donc la réforme des retraites. À Paris, ils étaient 250 000, selon la CGT, des manifestants qui n'ont pas hésité à braver le froid, Christophe Ponzio, pour afficher leur opposition au projet du gouvernement.
Et effectivement, ensemble, une foule ensemble et compacte au milieu des ballons des organisations syndicales, au son des pétards des pompiers, des sirènes des cheminots ou encore des sifflets des enseignants. Ce qui réjouit Patricia et Séverine, salariées d'une entreprise de transport privé.
On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde quand même. Hein. Là, on est vraiment surpris. La France, elle est en colère et tout le monde est concerné.
On ne sait pas à quelle chose on va être mangé.
C'est bien ce qui préoccupe justement tous ces manifestants dans le cortège. La baisse possible de leur pension de retraite, déstockage massif des retraites, moins 30% peut-on lire sur certaines banderoles. Marie-Hélène est fonctionnaire et infirmière. Sous son bonnet, elle est préoccupée.
Actuellement, j'ai un salaire de 2000 euros par mois, sauf que ma retraite, en fait, sera de 1000 euros seulement. C'est tout simplement impossible de payer à la fois un loyer, de payer ses charges fixes et de pouvoir manger. Ben, le risque, c'est que ça soit encore diminué. Je pense aussi à mes enfants, je pense aussi à toutes les personnes qui ont des emplois précaires.
Et c'est pour ça qu'un peu plus loin, Georges, venu de banlieue parisienne, est prêt à tenir.
C'est un bon début, il faut continuer. Il faut que pendant toute la période des fêtes, il y ait des grosses grèves pour que ce projet il soit retiré très vite parce que c'est un projet qui prend tout le monde pour des pigeons.
Actuellement, le cortège poursuit sa route en direction de la place de la Nation. Mais pour tous les manifestants présents encore ce soir, pas question de désarmer.
Christophe Ponzur en direct de la manifestation parisienne pour RTL.
Oui, un cortège qui est d'ailleurs longtemps resté bloqué sur le boulevard Magenta.
Et ça en raison de heurts entre les casseurs qui avaient infiltré la manifestation et les forces de l'ordre déployées en nombre. Des affrontements qui ont eu lieu place de la République et qui viennent de se terminer, Sinamia.
Oui, après avoir duré près de 2 heures sur cette place de la République, comme vous pouvez l'entendre, ce qui a bloqué le carré de tête syndicale, le très gros des dizaines de milliers de manifestants présents à leur point de départ.
C'est complètement n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui étaient en panique et qui voulaient juste s'extraire du truc. Je pense que c'est bloqué, comme ça on ne parlera que des blocages, que du feu, que des vitrines pétées, et pas du tout des revendications que les gens sont venus déposer ici. Parce que d'entendre ces bruits-là, des personnes en noir avec leurs masques, etc., bon bah du coup il y a des personnes qui ont rebroussé chemin.
Parti notamment lorsqu'à l'avant du cortège, plusieurs manifestants cagoulés ont mis le feu à une remorque de chantier située au pied de la maison des syndicats. Un black bloc de plusieurs centaines de personnes s'est constitué dans la foulée. Des jeunes gens masqués affrontant avec des feux de Bengale, des feux d'artifice, les grenades lacrymogènes et détonantes de la police qui a finalement interpellé ce soir 87 personnes en marge du cortège et permis à la manifestation de démarrer direction Nation il y a quelques minutes en nocturne.
Sinamière, donc place de la République pour RTL. Le Premier ministre Édouard Philippe a tenu à saluer dans l'après-midi la bonne organisation globale des manifestations et rendu hommage aux syndicats qui les encadraient.
En parlant de la mobilisation, elle a été forte dans l'éducation avec plus d'un enseignant sur deux en grève dans le primaire.
Et ils étaient 42% dans le secondaire. De nombreux établissements ont donc gardé porte close aujourd'hui. Mais dans ceux qui restaient ouverts, c'était une journée presque comme les autres. Yannick Collin, vous l'avez vérifié à Strasbourg dans l'école Chopselin.
Oui, dans l'académie de Strasbourg, 82% des écoles ont pu accueillir les enfants aujourd'hui, mais les élèves ont tout de même remarqué que les classes étaient nettement moins chargées que d'habitude, comme ici à l'école Chopflin, au centre-ville de la capitale alsacienne.
Il y avait beaucoup de places qui étaient vides, il y avait beaucoup d'absents.
Dans cette école, le principal problème pour les parents, c'était plutôt que la maternelle faisait grève, mais pas l'élémentaire. Jean-Philippe a des enfants des deux côtés de l'école.
Comme ils sont pas tous les deux du même côté, il y a juste mon épouse qui a dû poser des congés pour garder la petite parce que l'école maternelle était fermée. Mais bon, 50%. Ça va, quoi.
Et certains enfants regrettaient de devoir aller à l'école aujourd'hui. Alexia est la maman de Thomas.
L'institutrice a dit tout de suite qu'elle, par contre, ne faisait pas grève. Donc voilà, les élèves devaient être présents. Il était déçu.
Et à quelques centaines de mètres de là, d'autres écoliers ont vraiment profité de cette journée de grève sur la patinoire du marché de Noël. Christine a emmené son petit-fils Julien et sa copine Nina.
Il fait beau, on a le beau soleil, donc on en profite.
Je suis en CE2.
Il n'y avait pas école alors aujourd'hui ?
Non, c'est plus sapin.
Reportage de Yannick Collin en Alsace pour RTL.
Allez, on marque une pause et dans un instant, le cœur de ce bras de fer syndicat exécutif, les transports évidemment, SNCF, RATP. On fait un point et c'est pas sûr que demain ça soit plus simple que ce matin. À tout de suite.
RTL Soir, 18h07.
RTL Soir.
Entre-moi. RTL Soir, 18h09, Vincent Parisot et pour la suite du journal Céline Landreau.
Et on revient évidemment Céline sur ce premier jour de grève qui a viré à la galère dans les transports. Ce n'est sûrement pas terminé.
Oui, les halls de gare sonnaient étonnamment creux aujourd'hui. 10 lignes de métro sont restées fermées à Paris. Et comme Gladys qui vit à Nières-sur-Seine, vous êtes nombreux à avoir dû vous adapter.
Il n'y avait pas de bus, donc du coup j'ai dû prendre une trottinette. Avec le froid, c'était pas simple. Et là, donc j'attends le retour, mais je pense qu'il n'y aura pas de train au niveau de Saint-Lazare, donc obligé de prendre un Uber en fait. Bon, après ma société, elle est prête aussi à ce qu'on fasse des notes de frais et à nous rembourser. Mais bon, là, moi j'ai été au travail. Il y en a d'autres qui ont fait du télétravail, d'autres qui ont dormi à l'hôtel parce qu'ils habitent encore plus loin. Qu'on puisse manifester, revendiquer des choses, ça, il n'y a aucun problème. Mais après, ça impacte vraiment beaucoup de gens. En plus, là, c'est Noël. Est-ce que les trains vont être en service ? Ça devient effectivement plus contraignant.
Un témoignage recueilli pour RTL par Gauthier Delon-Bugard. Alors ça, c'était aujourd'hui. Parlons de demain. Bonsoir Eric Vanier.
Bonsoir.
On peut d'ores et déjà parler d'une très très légère amélioration du côté de la SNCF.
Oui, la SNCF prévoit une petite amélioration de la situation en Île-de-France avec 15% du trafic des trains de banlieue et des RER assurés, alors que c'était 10% aujourd'hui, et un peu plus aussi de TER, 30% au lieu de 20% aujourd'hui, mais on sera encore proche d'un trafic zéro en Bretagne, dans les Hauts-de-France et dans la région Centre-Val de Loire. Et souvent, c'est un autocar que vous trouverez à la place d'un train. En revanche, ça restera toujours aussi compliqué. Sur les grandes lignes TGV et Intercité, la SNCF n'arrivera pas à mettre plus de 10% de ses rames en circulation demain.
Et la mobilisation reste forte aussi à la RATP.
Oui, alors là, difficile de voir vraiment une amélioration. Toutes les lignes de métro seront fermées, sauf la 1 et la 14 qui sont automatiques. La 4 et la 7 qui assureront un tiers du trafic aux heures de pointe. Sauf aussi sur les tronçons est de la 8 et de la 9 qui, matin et soir, feront rouler une rame sur 3. Sur le RER A, on reste sur une rame sur 2 aux heures de pointe. Une sur 3 sur le RER B, mais rien en milieu de journée. Les tramways 2 sur 3, mais pas forcément en continu. Et le T3, le T7 et le T8 seront nettement en dessous de cette moyenne. Enfin, les bus, très variables selon les lignes, mais quand même un tiers du parc sortira.
Enfin, statu quo, Eric dans les airs.
Oui, toujours à cause du mouvement de la grève des contrôleurs aériens qui a été reconduite. La DGAC a encore demandé demain à toutes les compagnies opérant en France de réduire de 20% leur nombre de vols. Air France a choisi de préserver ses longs courriers, mais de clouer au sol 30% de ses avions court courriers, c'est-à-dire en gros les vols intérieurs, et 10% de ses moyens courriers.
Voilà, et toutes ces mauvaises nouvelles pour les usagers étaient signées Eric Vanier.
La mobilisation va donc se poursuivre contre une réforme dont on ne connaît pas encore les contours. L'architecture sera présentée en milieu de semaine prochaine par Édouard Philippe. L'exécutif qui continue d'afficher sa sérénité, mais qui scrutait bien sûr les manifestations du jour, William Galibert.
Oui, absolument. Une journée scrutée, mais qui officiellement ne fait pas fléchir l'Élysée. Le président n'a pas quitté le palais aujourd'hui. Conseil des ministres ce matin. Un seul petit rendez-vous à son agenda cet après-midi. Pour le reste, il y avait la télévision pour les images des cortèges et surtout les notes sur la mobilisation remontées en temps réel par le ministère de l'Intérieur. Pas de cellule de crise, pas de dispositif particulier, a tenu à nous préciser l'un de ses conseillers. Calme, détermination, voilà le vocabulaire choisi par l'entourage du chef de l'État. En fait, Emmanuel Macron laisse son Premier ministre à la manœuvre. C'est Édouard Philippe qui est allé faire un tour au ministère des Transports tout à l'heure pour vérifier l'ampleur des blocages. C'est aussi lui qui présentera le détail de la réforme en milieu de semaine prochaine. Pour le moment, un ministre veut croire que l'ampleur de la mobilisation du jour n'en changera pas le contenu.
William Galibert, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet brûlant pour l'instant dans l'immédiat, parce qu'on y revient dans quelques minutes avec le patron de Force Ouvrière.
Coup de théâtre après le double homicide de Montauban. Un nouveau suspect est mis en examen. Jusque-là, c'est le fils d'une des victimes et compagnon de la seconde qui était soupçonné d'avoir tué les deux femmes le 14 novembre dernier à leur domicile. Mais aujourd'hui, Patrick Tégéraud, il semble hors de cause.
Oui, le jeune Mehdi, 17 ans, faisait figure de coupable évident, couvert de sang. Il avait aussi des résidus de poudre sur lui. Il avait désigné deux personnes qui avaient des alibis et ses propos étaient incohérents. Mais il a toujours affirmé qu'il y avait un autre homme dans la maison cette terrible nuit. Et il avait raison. Malgré son incarcération, la police judiciaire de Toulouse a poursuivi ses investigations, en particulier à partir d'une paire de lunettes ensanglantées retrouvées près du corps de la plus jeune victime. Il s'avère que ces lunettes sont celles du propriétaire de la maison. Les policiers scientifiques trouvent aussi des traces d'ADN d'une des victimes et de Mehdi sur le volant de sa voiture, le volant qui a été empoigné par les mains ensanglantées du tueur. Placé en garde à vue, mardi, l'homme de 57 ans a avoué, il est venu dans la nuit avec son fusil de chasse, avec des cartouches, il avait éteint son téléphone portable et il avait aussi pris un brouilleur pour empêcher ses locataires de téléphoner, d'appeler au secours. Ses locataires lui devaient 3000 euros de loyer impayé. Émilie, 38 ans, Laura, 18 ans, ont été victimes de son opération punitive. Le jeune Mehdi a été remis en liberté hier soir, traumatisé à vie. Il a vu sa mère et sa petite amie exécutées.
Récit signé Patrick Tégéraud, correspondant de RTL dans le Sud-Ouest. Un mot de sport pour finir. Le biathlon français se porte bien. Justine Breza a remporté l'individuel d'Östersund aujourd'hui, qui compte donc pour la Coupe du Monde de biathlon. Et cela au lendemain du quadruplé des hommes emmenés par Martin Fourcade hier.
Merci Céline, vous revenez bientôt ?
Pour les titres, 18h30.
Bien, dépêchez-vous, c'est dans un quart d'heure.
J'y vais.
Une courte pause et dans un instant, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. À tout de suite.
N'oubliez pas, vous pouvez appeler Yves Verrier au 3210 pour le joindre.
RTL Soir.